questions sur franca-on-r.fr.
Alors, le retour sur notre radio Henri Vogue 99.6. Alors maintenant, on va accueillir Monsieur Poisson avec son équipe, c'est-à-dire son première équipe. Et pourquoi ? Pour parler de l'histoire-géographie.
Son fan club.
Ah oui, fan club comme d'habitude. Alors, je donne d'abord la parole à Monsieur Poisson pour l'histoire-géographie. C'est cette matière-là que souvent on en parle depuis le primaire, mais on n'entend pas des témoignages et dire donc par rapport, est-ce que c'est une matière qui reste toujours les mêmes images qu'on donne, qu'il n'y a pas de changement, c'est toujours l'histoire-géographie, on ne peut pas se dévier sur autre chose que même, est-ce que l'histoire-géographie a un rapport avec la science, qu'on peut aussi avoir un rapport avec la technologie, même quand on parle de la physique, l'histoire-géographie, ça fait partie. Alors, qu'est-ce que, donc M. Poisson,
bonjour.
Donne parole, oui. Alors.
Bonjour, je commence par me présenter. Donc, je suis Lionel Poisson, professeur d'histoire-géographie au lycée Henri Vogt, où je suis arrivé en 2002, à la rentrée 2002. Voilà.
Alors, depuis 2002, c'est toujours le même établissement. Et alors, comment est-ce que l'histoire-géographie est bien acceptée par les élèves? Est-ce que vraiment une matière que... Il y en a des élèves qui parfois sont devenus des profs d'histoire-géographie.
Oui, oui, oui. Je revois fréquemment d'anciens élèves qui sont étudiants à l'université de Nancy 2 en histoire-géographie. Certains sont venus me voir aux journées portes ouvertes le samedi 17 mars. J'ai toujours plaisir à revoir ces anciens élèves avec qui on parle encore d'histoire-géographie, de livres. Voilà, sinon, pour répondre à ta question que tu posais tout à l'heure sur l'ambiance du lycée depuis 2002, moi je trouve qu'il y a c'est très stable, hein, parce que ici, à Commercy, dans les environs, on est vraiment dans une société de face à face, les gens se connaissent. On est en présence d'une société structurée, quoi. Il y a tout un réseau de relations entre les gens. Hein. Moi, je suis arrivé, je n'étais pas d'ici, mais au bout de 15 ans, on construit des relations avec les élèves, avec les anciens élèves, avec les familles. Bon, après, si tu veux, on peut continuer de parler d'histoire-géographie par rapport aux questions que tu me posais au début de l'émission. Donc, tu me demandais si c'était une matière... Déjà le rapport entre l'historiographie et les sciences, et puis voilà. Si c'est une matière où il y avait des évolutions.
Oui, que les élèves.
Ou sinon, voilà, pour éviter d'avoir une vision passéiste de l'historiographie, quelque chose un peu de terne, de rébarbatif, où il y a beaucoup de choses à apprendre, qui sont un peu toujours les mêmes.
Oui, toujours on dit apprendre par cœur, alors que normalement l'historiographie, moi j'ai, donc à chaque fois que je fais des projets, même je fais travailler une fois prof de physique, d'histoire-géographie et des mathématiques. Et ça, les élèves étaient surpris. Donc, que parfois, ils les mettent dans les catégories de littérature, L ou bien matière, et, ben, toujours en rapport avec les langues, les littératures, etc.
Alors, de toute façon, l'histoire-géographie fait partie maintenant des sciences humaines. Mmh. Alors, c'est sûr qu'il y a toujours des choses. Alors, ça peut rebuter certains élèves, notamment certains élèves de seconde, qui sont toujours impressionnés quand ils doivent réviser un chapitre de 6 pages avant un devoir. Mais effectivement, c'est une matière où il y a des choses à apprendre, parce que sans connaissance positive, on peut pas se construire et construire ses connaissances. Après, c'est une matière qui est une immense ouverture sur le monde et puis sur les autres aussi. Alors sinon, par rapport à l'évolution de la matière, c'est une matière qui évolue beaucoup, parce qu'il y a tout le temps des recherches. Alors une partie du travail, c'est de se tenir au courant justement des évolutions de la recherche. Il faut lire beaucoup, c'est ce qu'on appelle l'historiographie. Alors notamment, je conseille pour les gens qui sont intéressés par l'histoire-géographie, il y a une nouvelle histoire de France chez Belin, plusieurs volumes. Si des gens ont envie de se cultiver ou d'apprendre des choses, ou s'ils sont intéressés par une période ou pour préparer un concours, je conseille fortement cette nouvelle histoire de France qui est parue chez Belin. Le CDI, je ne fais pas de publicité pour un éditeur particulier.
Hein. Quand même.
Ah non,
un peu quand même.
D'ailleurs, le CDI.
Ils vont rien dire, le CDI.
Moi, je soupçonne M. Poisson d'avoir signé un contrat avec Belin.
Alors, d'ailleurs, le CDI doit acquérir cette.
Normalement, cette voilà. Histoire de France. C'est contraire. C'est voilà. Normalement le but de CDI, c'est toujours demander l'avis des collègues et aussi même des élèves pour enrichir le CDI. On fait pas comme ça au hasard. On achète des livres par plaisir ou le choix personnel, mais par le choix des professeurs et aussi des élèves. Et ça, c'est un exemple. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser déjà à M. Parson ?
Moi, j'en ai une. On parlait de filière tout à l'heure et d'études. Qu'est-ce que vous avez fait comme études pour devenir prof d'histoire ?
Bonne question. De mon temps, il y a très longtemps, c'est-à-dire à la fin des années 70, je suis un personnage d'une tête, genre.
Ah non, ça se voit pas.
Et donc, j'avais commencé par... À l'époque, j'avais une orientation dès la fin de la troisième. Donc, j'avais commencé par faire une seconde S, ouais. Scientifique. Alors, c'était le bac, c'était le bac C à l'époque. C'était voilà. La seconde C. Quand.
Voilà. Donc,
et puis, finalement, je réussissais correctement en mathématiques, mais la matière ne m'intéressait pas. Quoi. Je n'avais pas de difficultés particulières. Mais, et donc, fin de seconde, j'avais... normalement, on partait de la seconde pour faire jusqu'en terminale. Et puis après avoir discuté avec un professeur de français, on m'a conseillé de repasser en filière littéraire. Donc j'ai fait une première L. À l'époque, je faisais du latin aussi, j'aimais bien le latin. J'ai fait une première L et un bac L. Et ensuite, je me suis inscrit, je vivais en région parisienne à l'époque. Je me suis inscrit, après le bac, on s'inscrivait, on allait nous-mêmes s'inscrire, il n'y avait pas de procédure... Parcoursup, Internet, etc. On allait nous-mêmes s'inscrire à l'université. Donc, je suis arrivé à 4h du matin à Paris pour m'inscrire. Parce que c'était les premiers. Il fallait faire la queue. C'était les premiers qui étaient là. Et puis, ils s'inscrivaient. Quoi.
Il n'y a pas de parcours à remplir. Il n'y a rien à remplir sur ordinateur.
Il fallait y aller.
Machine à taper voilà. Pour
donc, remplir. Mon père m'avait déposé à Paris à 4h du matin. J'ai fait la queue et je me suis inscrit à la Sorbonne, à l'université de Paris 4 Sorbonne. Et puis j'ai fait un DEUG, à l'époque c'était j'ai fait un DEUG, une licence, une maîtrise d'histoire en histoire militaire, sur l'histoire militaire de l'Ancien Régime, puis toutes les questions d'administration militaire sous l'Ancien Régime. Et puis après j'ai passé le concours, le CAPES et j'ai aussi l'écrit de l'agrégation. Voilà. Et puis ensuite j'étais stagiaire dans un lycée dans l'Essonne, je m'occupais d'une classe de seconde. Et puis après, j'ai eu mon premier poste de titulaire dans un collège dans le Val d'Oise, au nord de Paris. Mmh. Je suis resté 6 ans. J'aimais beaucoup travailler en collège. Et puis ensuite, je suis parti en Outre-mer, 4 ans en Polynésie française, à Tahiti. Et puis au retour, j'ai atterri.
Pour les
j'étais
vacances.
Parachuté.
Pour les vacances.
Non. Le travail était très difficile. Les journées étaient très longues. Il fait chaud sous les tropiques. Il n'y avait pas de climatisation.
C'est pas pareil. Hein,
Dans les salles de classe, il faisait 30 degrés l'après-midi. On était en cours à 7h du matin. Je me levais à 5h. On était en cours à 7h du matin jusqu'à 16h. L'après-midi, il faisait 30-35 degrés dans les salles de classe, avec des élèves qui étaient très gentils, mais pas trop scolaires. Donc c'était assez sportif. Quoi.
On dormait plus dans la classe et on se réveille à l'extérieur de l'établissement.
Voilà, et puis ensuite, je suis arrivé dans la Meuse en 2002, voilà, où je commence à prendre racine, à faire partie des meubles. Voilà.
Alors, est-ce qu'il y a une autre question ?
Ça, c'est de la cajou.
De quoi ?
C'est de la cajou.
Eh ben, c'est ça, on montre. Il y a une différence entre dans les années 80, les années 90, etc. Au niveau pour y arriver, pour passer, il n'y avait pas le choix, donc la facilité de comprendre ce qui se passe après le bac, etc. L'orientation, et parfois et ce qu'on vient d'entendre. On peut être scientifique au départ, après on change d'avis littéraire, pareil, tout. Donc c'est la décision, parfois, ça apparaît même à l'université. Parfois, on change plusieurs fois pour après décider à la fin. On devient même après revenir à la fac de médecine. Pour certains que je connaissais, donc, alors qu'ils ont passé 3 ans à la fac de lettres, après ils sont revenus pour passer.
Oui.
Ce qui se passe différemment.
Ici, on a une élève qui avait fait un bac L et qui a réussi, c'est une médecine, qui passait.
Ils en ont parlé.
Est devenue médecin, oui.
Madame Fernandez nous en avait parlé. Une élève
qui
a réussi à gérer sa filière littéraire et derrière assurant en médecine.
Rien n'est joué, rien n'est acquis. Non, petit moment philosophique.
Rien n'est joué d'avance.
Voilà. Surtout la motivation.
Et vous,
la
monsieur, motivation. Vous vouliez faire quoi avant d'être prof, hein? Vous avez toujours voulu être prof ou...
Non, mais j'ai voulu être prof à partir du moment où j'ai fait un bac L. Parce que c'est vrai que dans le contexte des années 80, c'est vrai que
il n'y avait pas beaucoup
de travail. C'est vrai que là, c'était le moment où la société française a commencé à bloquer pour l'accès à l'emploi. J'étais assez réaliste. On se rendait bien compte qu'en faisant des études d'histoire... le débouché principal, surtout maintenant il y a d'autres débouchés, mais c'était surtout
avant il y avait que ça, donc, la fac de lettres, c'est ça, c'est les soit donc des concours fonctionnaires, c'était ça.
Et en plus au milieu des années 80, parce que longtemps il y avait très peu de postes pour être enseignant, de places au concours, et à partir du milieu des années 80 il y a eu beaucoup plus de places au CAPES, donc c'était possible d'avoir le CAPES. Parce que jusqu'au début des années 80, c'était un concours, il y avait 200 places par an. Hein. C'était comme l'agrégation de nos jours, c'était extrêmement difficile. Et puis le gouvernement avait mis plus de postes au concours, hein, parce qu'on avait besoin d'enseignants, parce qu'on était vraiment dans une logique de massification. Et donc on a aussi eu la chance d'être à la fin de nos études, au moment où il y avait des emplois, c'était possible de devenir enseignant dans de bonnes conditions, quoi.
Oui, donc c'était même, on venait même chercher donc des étudiants à l'université pour aller remplacer des professeurs. Donc je me rappelle, dans les années 80, parce que les concours, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui se présentaient. Et même les places étaient limitées. Et d'autres, donc, ajoutés par rapport à l'image de l'histoire-géographie, donc dans maintenant le XXe siècle.
Alors tout à l'heure aussi, tu parlais du lien entre l'histoire-géographie et les sciences, ou le fait d'être scientifique ou littéraire. Bon, alors par exemple, c'est vrai qu'il y a un domaine de recherche, c'est l'histoire des sciences. Il y a beaucoup de choses qui se font en histoire des sciences. Et il y a des gens qui peuvent être aussi scientifiques, historiens. Et je sais que par exemple, une année, en accompagnement personnalisé au troisième trimestre, j'avais plutôt un groupe d'élèves qui voulaient faire S. Et on avait travaillé pendant 5 semaines sur l'histoire des sciences à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle. Il y a aussi des choses, c'est aussi un domaine d'études intéressant. On peut aussi travailler sur l'histoire des sciences, qui est aussi un champ de recherche en histoire.
Oui, donc surtout les exemples, les grands, même les grands physiciens et mathématiciens au départ, dans les, donc il y a longtemps, c'était au départ des géographes, des historiens, des philosophes, des littéraires, et qui sont devenus des grands mathématiciens, des grands physiciens. Et maintenant, c'est ça le problème. Maintenant, c'est voilà ce qu'on a parlé donc de toujours S, ES, etc. Même à l'université, qui avait des problèmes au niveau de choix de certaines filières. Si tu veux faire la mathématique, il faut faire que les mathématiques. Quand tu veux faire physique, il faut faire que la physique. Et ce qui bloque l'ouverture vers d'autres matières, d'autres disciplines. Et c'est ça qui a gâché parfois une autre ouverture. Même maintenant, on ne trouve plus des vraies réalisations, même des découvertes, qui aident beaucoup l'humanité, que même les théorèmes, on n'entend plus parler, même certaines idées dans la géographie, l'histoire, tout ça. Maintenant, on ne voit plus de résultats.
Ah, ça reviendra.
Ça reviendra.
Ça reviendra.
Oui, tout est possible. Donc, c'est à vous, maintenant, de jouer.
Bah, bien sûr.
Donc, voilà. Et ben,
on n'a pas tellement le choix.
Voilà, oui, il n'y a pas de choix. Et bien, c'est fini pour cette rencontre avec la classe première L, et on vous donne rendez-vous avec la suite pour la première L jeudi matin de 8h à 9h. Et merci, et la suite, ce sera encore un autre invité qui va être avec nous.